Vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais en matière de rond-point, on peut quand même s'interroger sur cette menthe religieuse dans le Vaucluse, sur cette fusée de Tintin dans la Drôme, ou encore le donut saucisse du côté de l'Hérault. Inventé par un roi pour assister au spectacle de la chasse, plébiscité par la sécurité routière et les assureurs, ils sont tellement nombreux que personne ne peut les compter. 20 000, 30 000, 40 000, le pays tout entier semble victime d'une rond-pointite aiguë. Il s'en construirait 500 chaque année, passion rond-point. Depuis que les centres-villes sont désertés ou inaccessibles, ils sont aussi devenus le symbole d'une contestation toujours en veille. Où mènent les ronds-points? C'est la question d'aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et bien sûr, on attend vos questions, vos commentaires, vos réactions sur l'appli ou sur le site de France Inter. Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal. Et c'est Philosophie Magazine qu'on feuillette avec vous. Martin Legros, bonjour.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Rédacteur en chef du journal, un Philosophie Magazine tout frais sorti cette semaine et qui se pose cette question. Sommes-nous si fragiles ?
Oui, une question bien d'époque. La fragilité est sans doute le mot, le concept, l'expérience dont nous avons tous fait l'épreuve à travers cette pandémie. Fragilité de nos systèmes sociaux, de nos systèmes sanitaires, mais plus personnellement, fragilité intérieure des individus. Et on s'est demandé dans ce dossier de Philosophie Magazine si la fragilité était uniquement une défaillance, un défaut, une vulnérabilité qu'il faut dépasser, surmonter de manière stoïcienne, ou si elle peut être aussi une ressource. La découverte de limites, d'une forme de finitude, et qu'on pouvait tabler dessus. Et voilà, on a fait tout un dossier sur cette notion, avec aussi les pistes des philosophes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette fragilité dont on a fait l'expérience.
Ce que vous racontez dans un long article qui s'appelle « Ligne de faille », c'est que finalement, nous avons tenu. C'est d'ailleurs presque le titre de l'article.
Oui, on aurait pu croire, et d'ailleurs il y avait de nombreux spécialistes qui disaient, il y avait même une théorie, la collapsologie, qui disait qu'on était au bord d'un effondrement général pour la crise climatique. Mais on aurait pu croire que face à la pandémie, quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, qui a touché le monde entier, on aurait pu croire que nos systèmes sociaux allaient s'effondrer. Alors bien entendu, ils ont souffert, ils ont été mis à rude épreuve, mais quand on regarde après 18 mois, on se rend compte tout de même que ce soit le système sanitaire et le système de santé, mais également les économies, les chaînes d'approvisionnement et de production, ça a tenu. Et donc on est allé voir une série de spécialistes, des mathématiciens, des logiciens, des économistes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a tenu dans nos sociétés dont on disait qu'elles étaient tellement interdépendantes que la moindre faille risquait de faire effondrer le système.
Alors, vous évoquez notamment la question de la dette qui s'est envolée, oui. On le sait. C'est une question économique. Que peut nous apprendre la philosophie autour de la dette ?
Alors, il y a un mystère. J'imagine que vous le partagez avec moi. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'économie, mais pendant plusieurs décennies, on nous a dit oui, la dette, c'est la catastrophe, on va dans le mur, on peut pas s'endetter autant. Et puis tout d'un coup, étrangement, on a fait l'expérience à travers cette pandémie, non seulement que les dettes publiques, les dettes souveraines pouvaient aller monter beaucoup plus haut. On est à 120% aujourd'hui du PIB, c'est quand même assez énorme. Souvenez-vous, Alain Juppé avait dit au-delà de 60%, la France est en faillite ou quelque chose du même ordre. Nous, on est à 120% et ça tient. Alors ça tient pour des raisons financières et économiques, c'est que, bien entendu, les taux d'emprunt pour lesquels les États empruntent sont très bas, c'est un contexte particulier, mais ça tient aussi à une question de confiance et ça tient aussi au fait que les grands ensembles, l'Europe ou les États-Unis, ont fait le pari que il était possible que l'État, en réalité, face à une crise comme ça, prenne la main. Et à l'échelle européenne, par exemple, on a bien vu que pour la première fois, l'Europe s'est portée garante. Elle a racheté les titres de dette des différentes nations européennes. Et on envisage tout à fait aujourd'hui de pouvoir faire filer la dette, même si le ministre de l'économie a dit récemment le quoi qu'il en coûte, c'est fini. En réalité, on s'est rendu compte que la question de la dette n'était pas tant une question objective qu'elle était une question systémique en un sens, et que si les économies tenaient grâce à l'endettement, l'endettement pouvait ne pas être un si grave problème.
Et ce que vous expliquez aussi, c'est que nos sociétés qui sont des milieux artificiels, finalement, l'homme s'adapte, il y a une espèce de darwinisme social, si l'on peut dire.
Oui, alors, darwinisme social, il faut être prudent avec les métaphores. D'abord, il faut aussi prendre acte du fait que les effets psychosociaux, notamment, mais économiques aussi, mais psychosociaux de la pandémie, n'ont pas encore révélé toute leur ampleur. Quand on interroge les spécialistes, ils nous disent que à peu près, les modèles avant pandémie, c'était quand même, on nous expliquait que 10 jours d'enfermement, ça produit nécessairement un stress post-traumatique très très grave. Or, qu'est-ce qui se passe? On a confiné pendant plusieurs semaines, on s'est rendu compte qu'à peu près 25% de la population, disent les psychologues, ont eu des troubles dépressifs assez rudes, que la moitié de la population a quand même encaissé, en particulier les femmes célibataires, les enfants de milieux défavorisés. Donc il y a eu des effets et les
étudiants
longs, par exemple, ne sont pas encore mesurés. Reste qu'il y a aussi l'autre part de la population, ces 20% dont on dit qu'ils s'en sont très bien tirés. Ils s'en sont très bien tirés, qu'ils l'ont même plutôt bien vécu et qu'ils ont trouvé dans cette situation et cet imprévu une manière de rebondir. Et donc ce qu'on peut en tirer comme leçon philosophique, c'est que en réalité, c'est pas tellement objectivement qu'une crise de cette ampleur-là produit ses effets, même s'il y a des effets très très matériels et mesurables, c'est dans l'attitude des individus. S'ils sont devant cette situation comme devant une situation absurde qu'ils ne peuvent pas anticiper, dont ils ne voient pas le bout dans un tunnel interminable, ça produit des effets très difficiles et il y a une difficulté de s'adapter et d'y surmonter. À l'inverse, si on parvient à inventer des nouveaux comportements, regardez le télétravail par exemple, il va sans doute modifier durablement la vie professionnelle. Eh bien si, pour certains, cette situation peut être des opportunités pour adopter de nouvelles attitudes au lieu de rester prostré dans l'attente, l'angoisse. Et donc c'est très variable, je dirais pas darwinisme social, je dirais capacité de l'individu d'adopter des attitudes pour faire face à ces nouvelles situations. Là, on n'est pas également, je dirais, on n'est pas égaux devant ces situations. Il faut armer les individus, il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent faire face. Mais en effet, jusqu'à présent, on a l'impression tout de même que les sociétés, en tout cas occidentales, c'est beaucoup plus difficile là où il y a moins de, où les les États sont beaucoup moins puissants, où le vaccin est moins fort, les outils sont moins présents. Eh bien, dans les sociétés occidentales, ce qu'on voit, c'est quand même une capacité, une forme de résilience assez étonnante et qui est instructive pour la suite,
capacité,
pour les prochaines crises écologiques ou autres que nous allons vivre.
Capacité à faire face. Merci Martin Legros. Sommes-nous si fragiles? C'est la une de Philosophie Magazine. Et puis jeudi prochain, on vous retrouvera dans l'émission d'Ali Rebéi. Grand bien vous fasse, vous parlerez de cette fragilité. Merci à vous, bonne journée.
Merci Thomas Chauvineau. Au revoir.
Une soucoupe volante, des spationautes, bienvenue sur le rond-point de l'espace. La Foissière, petite ville de 4500 habitants en Loire-Atlantique, a construit sa renommée sur ce drôle de giratoire.
Et pour cause, Marie-Sophie, hein, le rond-point, c'est une invention française.
En 1906, l'architecte Eugène Hénin a une idée révolutionnaire, tourner autour des places parisiennes au lieu de les couper.
Et donc, du coup, les accidents sont beaucoup moins graves, moins fréquents et moins graves.
Mais ce n'est pas tout. Si tous les maires veulent leur rond-point, eh bien, c'est parce qu'ils marquent l'entrée de la commune et qu'ils permettent aussi d'installer un décor. Regardez ça, c'est le rond-point voiture qui dégouline. Mmh. Il est à Châtellerault. Et on termine avec le dernier. Je ne sais pas si vous le connaissez, Marie-Sophie,
non,
celui-ci.
Non, je le découvre.
C'est le rond-point saucisse.
Très bien.
Je vous laisse juste.
Florilège de tout ce qui peut se dire autour des ronds-points, mis en onde par Stéphane Ranxin, le réalisateur de l'émission. Trois invités pour évoquer justement cette question des ronds-points. Michel Dalloni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex à Tours. Merci d'ailleurs à France Bleu Touraine qui permet cette liaison. Vous avez écrit cet été toute une série d'articles autour des ronds-points, des articles savoureux, passionnants à lire dans le journal Le Monde. Xavier Dejarcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste d'architecture et de politique de la ville. Et puis vous avez co-enquêté, vous êtes le co-auteur d'une enquête publiée assez ancienne, en 2010, hein, qui s'appelait La France moche, sur laquelle on reviendra abondamment au cours de l'émission. Et Eric Alonso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est et à l'Université Gustave Eiffel. Et vous êtes auteur du Rond-point au giratoire et puis l'architecture de la voie, qui est votre dernier livre aux éditions Parenthèse. Pourquoi ça s'appelle Rond-point, Eric Alonso?
Alors, ça s'appelle rond-point. Alors, ça désigne, ça renvoie au rond. Hein, et en fait, c'est un terme très ancien, beaucoup plus ancien que l'automobile elle-même, puisqu'on trouve des ronds-points dans les forêts de chasse et dans les jardins. C'est au départ un espace circulaire à la convergence de voies.
Donc, rond-point.
Voilà.
Parce que l'étymologie est curieuse, en fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Xavier de Jarcy, donc le rond-point, on l'a entendu ouais. dans le reportage, le rond-point saucisse donut, le rond-point où on voit une main et des voitures qui descendent de cette main. Donc c'est un charme auquel vous n'êtes pas du tout sensible.
Ah mais il y a des très beaux ronds-points, c'est pas tellement le problème. Par exemple, la place de la Nation à Paris, c'est un rond-point qui est très bien fait, avec des arbres au milieu, enfin bon, c'est très... C'est de l'urbanisme intelligent. Non, mais ce qui me gêne, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est un élément d'aménagement qui fait partie de tout un kit qui reproduit à l'infini partout en France. De la même manière, sans tenir compte de l'histoire ni du paysage, malgré effectivement les éléments de décoration qu'on peut apporter ou pas.
Trop de ronds-points, vous voulez dire ?
Non, trop d'étalement urbain, c'est ça le problème. C'est-à-dire que plus il y a d'étalement urbain, plus il y a de ronds-points, plus il y a de ronds-points, plus il y a d'étalement urbain. Et donc on consomme de plus en plus de terres agricoles et d'espaces naturels qu'on détruit avec ce mode d'aménagement.
Oui, qu'est-ce qui vous gêne finalement dans l'étalement urbain ? Qu'est-ce que c'est l'étalement urbain ?
L'étalement urbain, c'est de fait d'utiliser beaucoup d'espaces... pour construire des zones commerciales ou des zones de maisons individuelles, des lotissements. Il y a aussi les zones logistiques. Enfin, ça, on n'arrête pas de trouver de nouveaux éléments qu'on rajoute dans une espèce de banlieue interminable qui finit par recouvrir des parties de la France de plus en plus grandes.
Michel Dalloni, vous avez consacré, je le disais, une série de 6 articles, alors vraiment inspirés, hein, mais qu'est-ce qui vous a conduit, si je peux dire ça comme ça, pour rester dans la métaphore automobile, à vous intéresser au rond-point ?
C'est l'utilisation de la voiture. Moi, j'habite dans une zone périurbaine ou périrurale, comme on voudra, c'est-à-dire au milieu d'un peu rien. Et ma vie quotidienne est peuplée du contournement de ronds-points. Et je me suis interrogé sur leur signification, leur histoire, leur utilité, leur nécessité. On peut le regretter, comme l'a fait votre interlocuteur à l'instant, mais on est obligé de le constater. Ils sont là, ils sont installés. À quoi ils servent ? Qu'est-ce qu'ils disent de nous, finalement ? Qu'est-ce qu'ils disent de nous ?
Ils sont là et ils sont nombreux. On a du mal à savoir d'ailleurs si c'est 20 000, 30 000, 40 000. Éric Alonso.
Ouais, c'est ça qui est dingue.
Oui, en fait, il n'y a pas de recension officielle. Du reste, pas plus qu'on ne recense les passages piétons ou les feux tricolores. Hein. Alors, moi, j'étais tombé sur, à mon avis, ce qui est la seule enquête officielle des années 90, qui en dénombrait 12 000 en 95, qui estimait à plus de 18 000 en 2000. Et aujourd'hui, sur Internet, on trouve des sites avec des cartes collaboratives qui les évaluent à 65 000. Mais en fait, on n'en sait rien.
Michel Dalloni.
Oui, c'est assez fascinant, je trouve. C'est que ils sont là partout, on ne peut pas les compter. Alors, il y a sûrement de très bonnes raisons à ça. Ça paraît un peu curieux quand même, parce que on ne construit pas de rond-points sans autorisation administrative. Hein. Ce sont des équipements de voirie référencés, entretenus par des collectivités ou des institutions ou des entreprises. Donc, on devrait à peu près savoir combien il y en a, mais on ne sait pas. Ça dit quelque chose du pays aussi.
Ce que vous racontez, c'est qu'ils naissent, enfin, du moins sous leur forme primitive, avec François Ier, Michel Dalloni.
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Éric Alonso qui l'a établi, hein, c'est dans de très belles formules et dans le livre qu'il a consacré au rond-point et au giratoire. François Ier, oui, pour organiser le spectacle de ses chasses dans les forêts épaisses qu'il fréquentait, il voulait offrir à ceux qui ne pouvaient suivre le train de ses équipages de chasse le spectacle de la poursuite des sangliers et d'autres animaux, et donc il fallait organiser la répétition des passages, et donc le rond-point qui organise la convergence des voies et des allées forestières permettait aux cavaliers et aux équipages de passer plusieurs fois devant les spectateurs de la chasse pour leur offrir ce spectacle.
Alors il y a un homme dont il faut parler, Éric Alonso, c'est Eugène Hénard qui est l'inventeur, comme vous l'écrivez, du système pour la régulation des carrefours à giration, comme on disait au tout début du XXe siècle.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait des ronds-points des forêts et des jardins, on a ensuite aménagé des ronds-points en ville. Alors, il y a un cas très particulier que tout le monde connaît, c'est Paris. On réaménage les Tuileries et on prolonge l'axe central par une grande allée qui va devenir l'allée des Champs-Élysées, où on va retrouver des ronds-points, naturellement, puisque c'est un objet paysager au départ. Donc le rond-point des Champs-Élysées, puis l'étoile, hein, le rond-point de l'étoile, aujourd'hui, Charles de
Gaulle. Avec l'Arc de Triomphe, voilà, que tout le monde connaît.
Donc au départ, c'est ça. C'est un élément paysager, mais qui va se retrouver en ville, plutôt à sa périphérie, en prolongement des jardins, des aménagements paysagers, qu'on appelle les embellissements au XVIIIe siècle. Et puis au fil du temps, notamment au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la question de la circulation va devenir de plus en plus importante. Et donc la circulation hippomobile, on parle des fiacres, etc., va se concentrer, où ça, dans ces grandes places carrefour, ces grands ronds-points. Et à l'époque, ils sont traversés dans les deux sens. Et c'est un architecte français, Eugène Hénard, effectivement, qui en 1906 se dit qu'il suffirait, pour réduire les problèmes d'accident, de transformer toutes les trajectoires sécantes en trajectoires tangentes, c'est-à-dire en faisant tourner à sens unique les véhicules autour d'un rond-point.
Parce qu'avant, ils tournaient dans n'importe quel sens.
C'est ça. Et c'est là l'invention du giratoire. On peut dire que le sens giratoire a été inventé dans un rond-point. Voilà. À une époque antérieure à l'automobile.
Vous lui reprochez quelque chose à l'Arc de Triomphe, Xavier de Jarcy ? Enfin, au rond-point de l'étoile ? Celui-là est moche, il participe à l'étalement urbain, du moins c'était le cas quand il a été construit.
Non, mais je pense que c'est pas le problème. Moi, le problème, c'est pas de disserter sur les ronds-points, c'est de prendre conscience qu'on vit que la France, l'aménagement de la France tel qu'il se fait aujourd'hui n'est pas durable, en fait. À la sortie du rond-point, il y a un mur et on est en train de foncer dedans parce que on artificialise beaucoup trop d'espace naturel. C'est ça le problème. Le rond-point, on peut pas l'analyser en dehors de tout le système qui l'entoure et qui va avec. Alors pour revenir sur l'Arc de Triomphe, ça m'est égal en fait. C'est pas mon problème.
Voilà. Oui, mais faut dire qu'entre le giratoire de Eugène Hénard et nos giratoires actuels, il y a quand même eu un changement. Ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, c'est que, une fois qu'on avait trouvé ce système-là, on dit c'est bon, on a réglé le problème. On a réglé ce problème d'éviter les conflits des carrefours. Sauf que ce qui va se passer, c'est que l'automobile va apparaître. Et la massification de l'automobile va faire en sorte que les ronds-points vont être bloqués parce qu'on n'a pas fixé le sens de priorité. Donc vous voyez bien que si on rentre et que les gens doivent nous laisser passer quand on sort, on peut bloquer le système. Donc on s'est mis à faire des giratoires de plus en plus grands dans les années 30, 40, 50, 60. Et c'est les États-Unis les premiers qui abandonnent le système parce que ça ne marche pas. Jusqu'à ce que les Anglais, dans les années 60-70, découvrent, indépendamment du fait qu'ils roulent à gauche, que si on met la priorité à l'anneau, tout se passe bien. Et donc l'Europe, la France, qui avait un peu délaissé cette solution-là, va importer les modes de fonctionnement anglais. On appelait à l'époque en France les ronds-points à l'anglaise. Hein, je ne sais pas si les plus anciens auditeurs doivent s'en souvenir. C'est marrant d'ailleurs à l'époque, puisqu'on disait ça ne marchera jamais en France. Ça ne marchera jamais. Ça nécessite le fair-play à l'anglaise. Ça déroge à la sacro-sainte règle de la priorité à droite. Donc ça ne marchera jamais. Sauf que finalement, ça a été expérimenté. Et en 83, il y a un décret qui a généralisé cette dérogation à la priorité à droite pour les giratoires. Et c'est là qu'il y a eu une explosion des giratoires assimilables à ce qui a été décrit, qui sont tous ces giratoires qui ont explosé dans les années 80 et qui ont participé à la construction de la banlieue, de la périphérie.
Alors si le rond-point des Champs-Élysées a été conçu au départ pour fluidifier la circulation d'abord des hippomobiles puis ensuite des automobiles, ça marche toujours pas très bien, quoi. Enfin, tous les automobilistes qui viennent pour la première fois à Paris, c'est une source d'angoisse pour eux. Et ce que vous racontez, Michel Dalloni, c'est que il y a des tutos sur Internet qui vous expliquent comment sortir du rond-point de l'étoile.
Alors ça, c'est à la fois rigolo ou pitoyable, comme vous voulez, mais moi, ça m'a fait rien. Et on trouve ces tutos, effectivement, et même dans des langues étrangères, hein, pour accoutumer les touristes qui prendraient leur voiture ou un autre véhicule pour visiter Paris et affronter le rond-point de l'Étoile. On leur propose des modes d'emploi sous forme anxiolytique, hein, d'une certaine manière. Et pour revenir juste un petit peu en arrière, on a parlé d'Hénard, on a parlé de François Ier. Je pense qu'il faut rendre hommage aussi, Éric Alonso l'a fait dans son livre, à Léon de Polou-Massa, qui était directeur de l'équipement de l'Essonne, et qui le premier, dans les années 65, alors que c'était pas très à la mode en France, comme il l'a dit tout à l'heure Éric Alonso, met à l'honneur le rond-point, on va dire, à dimension humaine, comme un équipement de sécurité. Parce que le rond-point, c'est pas simplement... C'était un équipement paysager, c'est devenu aujourd'hui une balise symbolique, ou le symbole d'un étalement urbain, évidemment, on peut pas le contester, mais c'est aussi un équipement de sécurité
on qui, va y
au
revenir
de la massification de la circulation automobile, règle un certain nombre de problèmes, celui de les collisions frontales, celui des priorités, etc. Ouais. Et Léon de Polou-Massa, dans les années 65, a théorisé et mis en place du côté du plateau de Saclay
l'un des premiers ronds-points comme ceux qu'on utilise aujourd'hui. On reparlera de cette question de la sécurité routière parce qu'elle est vraiment en effet essentielle quand on parle des ronds-points. Sur l'appli de France Inter, François nous écrit « Plutôt que de construire des ronds-points, pourquoi ne pas instaurer la priorité à gauche ? En effet, la priorité à droite est autobloquante. Pourquoi ne l'a-t-on pas remarqué avant ?» Annie nous dit « Si les ronds-points sont nombreux sur nos routes, il ne faudrait pas oublier ceux des villes. La ville de Rochefort en Charente-Maritime est recordman des ronds-points intramuros. » Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact. Hein. Il y a même des ronds-points à double, des doubles ronds-points non accolés où l'automobiliste a intérêt à disposer d'un bac plus 10 en matière de subtilité sur la question n'étant pas, à ma connaissance, résolue dans le code de la route. Vous le connaissez, ce rond-point que vous avez exercé ?
Non, mais moi, ça me fait penser à la route qui va de Poitiers à Châtellerault, où il y a à peu près, ça doit faire une trentaine de kilomètres, il y a à peu près un rond-point tous les kilomètres, donc... C'est bien parce qu'on est obligé de rouler lentement parce qu'on peut pas accélérer.
Où mènent les ronds-points? C'est la question qu'on se pose dans le débat de midi. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site ou l'appli de France Inter. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Emmanuel Rengoat, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et qui a participé à une grande enquête sur le mouvement des Gilets jaunes parce que les ronds-points, inventés par un roi, comme on vient de le dire, sont aujourd'hui le symbole d'une contestation. Et bel été à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
We'll be right back.
un beau programme sur des chaises longues tout au long de la journée. Elles sont britanniques, elles viennent de l'île de Wight. Wet Legs, c'est le nom du groupe. Chaises longues, le titre de la chanson. Un immense merci à toute l'équipe du Débat de Midi sans laquelle cette émission ne pourrait pas se faire. Thierry Dupin choisit les disques, Stéphane Ronxin réalise avec la technique aujourd'hui. Victor Ouvrard, Colin Gruel et Mathieu Bellini ont trouvé tous les jours 3 voire 4 invités pour débattre dans la bonne humeur. Et croyez-moi, trouver des gens en plein mois d'août, c'est pas toujours de la tarte. Et Sophie Perwaguet et Thomas Gentil m'ont aidé avec leur précieuse documentation à préparer ces émissions. Merci beaucoup à vous tous.
Le débat de midi sur France Inter.
3 invités pour évoquer les ronds-points. Les ronds-points tournent-ils en rond? C'est la question qu'on pourrait se poser dans le débat de midi aujourd'hui avec Eric Alonso, qui est professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires. Michel Dalloni, qui est journaliste, qui signe une série d'articles consacrés aux ronds-points pour le journal Le Monde. Et Xavier Dejarcy, qui est journaliste à Télérama. Et nous sommes aussi en compagnie d'Emmanuel Rengoat. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier. Vous avez participé à une grande enquête sur le mouvement des Gilets jaunes parce que les ronds-points sont aussi devenus le symbole des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Alors, je suis maîtresse de conférence pour être précise, mais effectivement, les ronds-points, ça a été un lieu qui a permis cette mobilisation singulière parce que ça a permis de faire venir à la protestation des gens qui n'étaient jamais venus. Donc, c'était un lieu important, effectivement, pour comprendre ce mouvement-là, tout à fait.
Ce que vous dites, d'ailleurs, c'est que les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points étaient vraiment des primo-contestataires, qui n'avaient pas cette habitude-là.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans le mouvement des gilets jaunes, en tout cas qui le rend singulier, c'est que c'est un mouvement où il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais manifesté, qui n'avaient jamais contesté, qui n'étaient jamais descendus dans la rue. Selon les enquêtes, on considère que c'est quasiment la moitié des gilets jaunes qui étaient mobilisés au début. Et les ronds-points étaient très importants dans leur mobilisation, effectivement, parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était des lieux ouverts qui restaient constamment ouverts, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller le matin, l'après-midi, le soir. Donc ça a permis à des gens très différents de se mobiliser, des mères célibataires, des gens qui travaillent en intérim, des retraités, etc. Et aussi parce que c'était un lieu proche des lieux de vie et des lieux de travail, des gilets jaunes, qui vivent beaucoup en périphérie urbaine ou dans les zones rurales. Et puis enfin parce que c'était un lieu qui n'avait pas un coup politique très fort. Alors, c'est pas facile d'aller dans une manif ou dans une réunion politique quand on n'est pas habitué, qu'on n'est pas les ressources ou qu'on est très défiant à l'égard du politique. Alors que là, sur le rond-point, on pouvait venir avec ses compétences et les valoriser, c'est-à-dire juste être là, ou savoir bricoler en palette, ou savoir cuisiner, savoir faire un barbecue. Donc il y a aussi des savoir-faire populaires qui ont pu être valorisés sur le rond-point et qui ont permis à des gens de venir à la mobilisation et d'y trouver du plaisir et du sens. Donc c'était un lieu qui a permis la mobilisation de nouveaux acteurs, notamment des milieux populaires. En fait, c'est ça qui intéresse.
Ce que vous dites aussi, c'est que le rond-point n'a pas été qu'un lieu de contestation, mais aussi de politisation.
Oui, tout à fait. On peut considérer ça. Ça a été à la fois un lieu de vie et donc un lieu de politisation, parce que finalement, au même titre que d'autres modes de mobilisation plus institutionnels, comme les groupes de parole qui sont instaurés dans les mouvements féministes ou dans les mouvements des minorités sexuelles, et ben le rond-point, ça a été un lieu de parole où les gens ont d'abord partagé leurs expériences individuelles, donc leurs intimités, et ça crée aussi une intensité très très forte de l'expérience. Les gens, quand ils en reparlent, on sent que souvent ils sont émus, ça a marqué leur vie. Et puis, il y a aussi un effet de politisation au sens où on va sortir du récit individuel pour créer un récit collectif et se construit progressivement une identité collective et un récit collectif autour de qu'est-ce que c'est cette expérience de la difficulté économique, de la contrainte de transport. Et on va inscrire cette expérience individuelle qui pouvait être vécue sur un mode plutôt culpabilisé ou qui pouvait se baser sur des identités pas très valorisées, être au chômage, vivre l'allocation adulte handicapé, etc. Tout ça construit un récit collectif où là, on va poser une identité politique de contestataire et on va inscrire ces trajectoires individuelles dans un système qu'on peut critiquer ou à l'encontre duquel on peut contester, faire des propositions. Et c'est intéressant, ça se voit, ce processus de politisation dans les revendications. Au début, on est contre la taxe sur l'essence, puis progressivement, ça va être un mouvement qui s'oppose contre les inégalités sociales et fiscales, puis contre le fonctionnement institutionnel, ou en tout cas qui fait des propositions, notamment le RIC. Donc ça, c'est un élément important de la mobilisation. Ce qu'on interroge maintenant dans nos enquêtes, c'est de voir si cette politisation-là va durer, ce que ça fait aux acteurs 2 ans, 3 ans après, s'ils continuent à se mobiliser ou pas, par exemple.
Michel Dalloni, dans l'un de vos articles, vous évoquez, vous, un rond-point du côté de Niort.
Oui, à la sortie de Niort, sur la route de La Rochelle, le rond-point de la Mude, oui.
Et qu'est-ce que vous nous en dites?
Eh bien, il a toujours été occupé, alors de manière continue dès l'origine du mouvement, et puis dès que le mouvement s'est ralenti, au risque de disparaître presque, à la MUD, comme dans certains autres endroits, une poignée d'irréductibles a continué à occuper le rond-point tous les week-ends, parfois en faisant venir des gens de Saintes, de La Rochelle, de Saint-Jean-d'Angély, etc., pour continuer à créer ce mouvement dont parlait l'universitaire à l'instant.
Emmanuel Renouvelle.
Et ça reste quelque chose d'assez, c'est curieux, quoi. C'est à la fois très chaleureux, très naïf, extrêmement décidé, et inscrit durablement dans le paysage. Et le rond-point est devenu, alors on dit toujours une forme d'agora, c'est la renaissance du bistrot, je sais pas si tout ça est pertinent ou pas, je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, les Gilets jaunes ont investi une situation géographique aux marges de la ville, c'est-à-dire où ils se trouvent eux-mêmes. Eux-mêmes sont aux marges de la société, de la ville, du XXIe siècle, de tout ce que vous voulez. Mais il y a la rencontre de deux marges, une géographique et une humaine, d'une certaine manière, et ça crée quelque chose.
Xavier de Jarcy, ça vous a surpris justement que ces ronds-points, symboles pour vous de l'étalement urbain, soient ainsi devenus ce symbole de la contestation ?
Non, je pense que les ronds-points, c'est la vie quotidienne de beaucoup de gens en France. Et je ne sais pas si on peut... Enfin, est-ce qu'ils vivent en marge ? Je ne sais pas, parce que tout ce qu'on construit depuis des dizaines d'années, c'est sur ce modèle-là. Donc, ça finit par
sur quel modèle ?
Les ronds-points, les lotissements, les zones commerciales, etc. Donc, c'est quand même c'est plus la marge, c'est la majorité, finalement.
Éric Alonso, vous avez publié en 2005, j'insiste sur la date, 2005, du rond-point au giratoire, et pourtant, en 2005, on trouve déjà, alors évidemment, vous ne dites pas le mot gilet jaune, mais cette idée de la possible utilisation du rond-point comme mode de contestation.
Oui, j'avais déjà observé ça, des manifestants, et puis surtout des banderoles. Alors, ça s'explique, ça s'explique et on le comprend bien. C'est une forme disponible, ça a été dit, ouverte, au milieu de la chaussée, au vu de tous, éclairée, inaccessible une fois qu'on y est, donc on n'est pas embêté. Et puis, si on veut bloquer aussi le trafic, c'est très simple parce que chaque fois qu'on crée un giratoire, on vient brancher toutes les voies autour, donc il suffit de bloquer un giratoire. Mmh.
Mais au-delà, c'est à l'entrée ou à la sortie des villes aussi.
C'est ça. Et en même temps, c'est cette rôle-là. Ce qui est étonnant, c'est que à l'époque, quand j'avais écrit effectivement ce livre, les gens me disaient « Oui, mais tu nous racontes toute cette généalogie historique, tout le potentiel formel, de tout cet héritage de ces lieux de rendez-vous, de places, etc. » Et les gens me disaient « Mais aujourd'hui, c'est le symbole de l'État, c'est l'objet technique neutralisant, etc. » Et à l'époque, je disais « Non, c'est pas évident. Les formes contiennent toujours une capacité dans leur ADN qui peuvent toujours être réactivées. » Et aujourd'hui, effectivement, les journalistes me demandent « Mais alors, pourquoi le symbole, le giratoire est le symbole de la subversion ?» Voilà. Les formes ont ceci de performant, au-delà de... À la différence d'un objet technique, c'est que quand elles perdent leur usage initial, elles peuvent en avoir un second. Et c'est ce que nous ont montré, là, les Gilets jaunes.
Michel Dalloni, dans cet article, hein, où vous évoquez le rond-point de Niort, vous dites aussi qu'il y a des ronds-points qui sont encore occupés aujourd'hui.
Oui. Il y en a une quinzaine, une vingtaine. Il y a un site, hein, le nombre jaune, qui les référence assez précisément et qui maintient un lien. Et on voit qu'il y a effectivement toujours des rassemblements. Alors ils sont une poignée, hein, ou ils étaient une poignée, mais ils continuent à occuper ostensiblement. Hein, et à Niort, au rond-point de la Muse, ce qui fait la particularité de la situation, c'est que chaque manifestation hebdomadaire est déposée à la préfecture et validé par la préfecture. Donc il y a une forme, je parlais de marge tout à l'heure, et il y a dans cette marge une forme d'institutionnalisation aussi.
Il y a beaucoup de questions qui se posent, évidemment, autour du mouvement. Peut-il reprendre ? Va-t-il reprendre ? Emmanuel Rengoat, vous qui êtes, vous l'avez dit, non pas professeur, mais maître de conf en sciences politiques, vous pensez que ça peut reprendre ?
Ah, c'est toujours la question à 1000 euros. C'est plus facile d'expliquer ce qui s'est passé que ce qui va se passer. Mais je pense que le mouvement ne reprendra pas dans la forme dans laquelle il s'est développé. Et sans doute pas avec la même intensité. Il y a toute une partie des Gilets jaunes qui vont abandonner par lassitude, par fatigue, face aussi à l'importance de la répression policière et judiciaire. Mais il y en a aussi qui le mouvement ne convenait plus. Le mouvement s'est un peu gauchisé au fur et à mesure, en tout cas s'est politisé un peu à gauche, parce qu'il a aussi été investi par des militants, pour le coup, beaucoup plus expérimentés. Donc, on n'aura pas la même population qui va se remobiliser, et sans doute qui changera de forme. Et d'ailleurs, l'importance des ronds-points pour cette mobilisation, elle a été saisie très vite par les autorités qui ont évacué les ronds-points à peu près au bout d'un mois d'occupation, de manière assez synchrone sur le territoire. Ce qui a contribué à ce que le mouvement s'essouffle, parce que c'était le rond-point, même s'il y avait les actes, les manifestations du week-end, c'était quand même le noyau de cette mobilisation qui permettait aux gens de la pérenniser. Mmh. Ensuite, sur la continuité du mouvement, alors effectivement, il s'est réduit très très fortement. Il y a quand même des réseaux qui se sont créés à l'échelle locale, des réseaux d'interconnaissance qui n'existaient pas et qui perdurent. Des réseaux d'échange, des réseaux aussi de solidarité. Hein. J'ai suivi des groupes, par exemple, de mères célibataires qui continuent à échanger, à s'entraider, donc qui peuvent être des structures de rémanence, c'est-à-dire des réseaux qui pourraient se remobiliser selon les contextes, les situations, les enjeux. Et puis, il y a une partie des Gilets jaunes, notamment des primo-contestataires, d'ailleurs, qui se mobilisent maintenant sur d'autres sujets, c'est-à-dire qu'on a vu dans les manifestations sur la question des retraites, qu'on a vu dans les manifestations contre la loi de sécurité intérieure, parce qu'ils se sont sentis très concernés par la question de la régulation de la police, et qu'on trouve encore aujourd'hui, évidemment, dans les manifestations contre le pass sanitaire. Mais c'est une partie du mouvement, effectivement.
Donc un essoufflement, enfin, c'est pardon de le dire comme ça, un peu une réponse de Normand que vous nous faites. Oui, ça s'essouffle, mais il reste quand même une petite contestation qui est là.
Pour être plus direct, oui, je pense que pour les Gilets jaunes, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils demandaient, ils n'ont pas obtenu leurs revendications, et leur situation, pour ceux qui ont les situations économiques et sociales les plus difficiles, n'a pas changé. Donc les raisons de la colère, elles sont toujours là. Après, il ne suffit pas d'être en colère pour qu'une mobilisation se mette en place. Et ensuite, le deuxième élément qui est un peu plus délicat et qui m'amène à cette réponse un peu normande, si vous voulez, c'est qu'on parle des Gilets jaunes, mais c'est un mouvement très très hétérogène.
Oui.
Il y avait des populations très différentes, et notamment derrière, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'entre les lieux de mobilisation, entre les ronds-points et les manifestations, on trouve pas tout à fait les mêmes gilets jaunes. Dans les manifestations, on trouve des populations plus classiques des mouvements sociaux, plus jeunes, plus à gauche, plus écolos, plus proches des populations traditionnelles des manifs, plus diplômés aussi. Et sur les ronds-points, on trouve des populations un peu plus populaires, avec un peu plus de primo-contestataires, etc. Et en plus, c'est une autre singularité de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui regroupait des gens qui avaient un rapport aux politiques très très différent. Des gens complètement inexpérimentés, on va dire, de la contestation, et des gens qui étaient passés par des structures militantes, etc., mais aussi des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire si tous ces gens vont se remobiliser ou pas, parce qu'il y a des conditions très particulières qui, en fait, ils ont pu se mobiliser ensemble ou à côté, au vu de ces différences-là, et les ronds-points ont beaucoup servi à ça.
Merci Emmanuel Rengoat d'avoir participé à ce débat de midi. Je rappelle, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous.
Xavier Dejarcy.
Ben, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait le rond-point, qui est un objet technique, est devenu un lieu politique. Et ça montre que la construction de la ville, c'est pas simplement des problèmes techniques, c'est des problèmes politiques. Et donc il faut que les citoyens et les politiques s'en emparent. Voilà.
Alors, quand on parle des ronds-points, il y a un axe qu'il faut aussi évoquer. On a commencé à le faire, c'est celui de la sécurité routière. Et à ce sujet, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un film.
Oh non, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Oh là là, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, et puis
voilà. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite.
Mais je ne suis pas pressé, moi.
Bien, alors moi, je suis pressé, voilà. Voilà, ah, voilà c'est là. Mais, c'est fini, oui.
Mais je vous en
prie. Alors, voici ma carte.
Hein?
Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera, voilà.
Il y en a qui marchent pas de culot.
André Bourvil, Louis de Funès, Gérard Houry, Le Corneau sorti en 1965. Et ce que vous expliquez, Éric Alonso, c'est que c'est précisément à peu près à cette époque qu'on s'intéresse au rond-point comme une possibilité d'utilisation du rond-point, en tout cas pour lutter contre les insécurités routières.
Oui, c'est un peu plus tard. Hein, la sécurité routière, la politique de sécurité routière arrive un peu plus tard, au cours de la décennie suivante. Et effectivement, on l'a dit, le giratoire est à la fois une solution pour fluidifier la circulation, mais c'est principalement un outil sécuritaire, effectivement, pour résoudre la question des accidents. C'était même à l'origine de cette invention-là. Et d'ailleurs, ça avait été décrit dans un article du Monde que j'avais trouvé à l'époque des années 2000 comme la plus spectaculaire découverte en termes de sécurité routière. Et effectivement, les statistiques montrent que ça réduit relativement fortement le nombre et la gravité des accidents. Alors, pour plusieurs raisons, la principale, c'est que ça réduit la vitesse, tout simplement. On a parlé tout à l'heure des giratoires un peu compliqués, on ne sait pas trop comment s'en servir, des semi-franchissables, il y a des doubles. Et en fait, comme on a tendance à rouler un niveau de prise de risque constant, dès que c'est compliqué, on ralentit davantage. Donc finalement, moins on comprend, plus c'est efficace, dans une certaine mesure. Et voilà, et donc c'est ce qui explique majoritairement... c'est une des bonnes raisons d'aménager des giratoires dans certains cas, parce qu'effectivement, ça réduit le nombre et la gravité des accidents.
Alors, des assureurs ont fait, il y a quelque temps, une enquête, hein, et leur chiffre est assez éloquent. Michel Dalloni, la transformation d'un carrefour classique en sens giratoire réduit les nombres d'accidents graves de 80%.
80%, oui, parce qu'on supprime les chocs frontaux, il n'y a plus que des chocs de friction. Alors évidemment, suivant la vitesse et l'incivilité commise, cette friction-là peut être plus ou moins sévère, mais le choc frontal ou le choc à angle droit que peut provoquer le fait de brûler un feu rouge, de griller un stop ou de ne pas respecter la priorité d'un tournant à gauche, elle est évidemment réduite à néant par l'aménagement du rond-point qui amène les trajectoires à se frôler. Voilà. Des véhicules à se frôler.
Sur l'appli de France Inter, Julien nous dit « Très fan de l'humour du responsable de l'urbanisme de la ville de Landerneau qui a un rond-point carré, est appelé Raymond Poincaré. » Et puis ce message d'Elisa qui nous dit « C'est un gaspillage fou d'argent public. 50 000 ronds-points ont coûté 30 milliards d'euros depuis 40 ans. » Alors je ne sais pas d'où sortent les chiffres d'Elisa. « Avec plus de 1000 construits chaque année, on est plutôt autour de 500 à 800 par an, hein, à peu près. Des saucisses géantes, des chaises suspendues, ces ronds-points ne mènent nulle part, » nous dit Elisa. Xavier Desjarcy.
Alors moi aussi je vais donner des chiffres. On urbanise chaque année en France à peu près 20 000 hectares, c'est-à-dire c'est deux fois la surface de Paris intramuros, sans compter les ronds-points, sans compter la voirie. Donc c'est absolument énorme, c'est-à-dire qu'on consomme deux fois la surface de Paris chaque année en terre agricole et en espace naturel. On détruit, voilà.
Pour construire quoi ?
Voilà, pour construire.
Pour construire quoi ?
Pour construire des lotissements, toujours la même chose, hein, toujours le même modèle partout, principalement des lotissements, ensuite des zones commerciales, des zones logistiques. C'est les trois éléments principaux qu'on étale indifféremment.
Et auxquels on accède avec des ronds-points.
Et voilà, exactement. Et si ça continue comme ça, d'ici 2030, alors c'est les chiffres du gouvernement, on va urbaniser l'équivalent de la surface d'un pays comme le Luxembourg. Et l'objectif du gouvernement, c'est de mettre fin à tout ça d'ici 2030. Donc ça va être très... Je ne sais pas comment ils vont y arriver, ça va être très difficile, mais il va falloir le faire.
Michel Dalloni, on accuse souvent les ronds-points, enfin en tout cas, ils sont souvent repris comme étant le symbole de collusion financière douteuse entre des élus et des promoteurs. Oui. Il se trouve que vous l'expliquez très bien dans l'un de vos articles, la Cour des comptes s'est penchée sur cette question et en fait, il apparaît que a priori non, il y a pas plus enfin le rond-point n'est pas source de malversation.
En tout cas, pas source de malversation avérée. Il y en a peut-être, mais elles n'ont pas été aujourd'hui par les instances de régulation et de contrôle et d'investigation mises à jour. Hein, il n'y a qu'une seule histoire qui a été révélée en 99 dans la ville de Grenoble, qui a entraîné la condamnation de l'élu de l'époque. Mais il n'y a pas de système. Ça relève plutôt du fantasme. Mais ce fantasme est tout à fait compréhensible compte tenu des masses financières et de l'éclosion extrêmement rapide de ce dispositif routier. Et évidemment, ça alimente beaucoup de choses. Et par ailleurs, l'industrie des travaux publics en France, qui est une industrie assez puissante, vit à 70% de l'argent public et donc est évidemment très intéressé par la multiplication de ces infrastructures.
Éric Alonso.
Oui, oui, c'est vrai que alors c'est vrai que ça coûte cher, mais il faut rapporter ça aussi au prix des travaux routiers qui coûtent très cher de manière générale, hein, et donc on peut se poser la question du bon usage de l'argent public de manière générale. Le rond-point apparaît beaucoup dans le débat public parce qu'il est comme ça, il est évident, comme ça, il paraît posé, ça paraît un ovni, donc ça vient jouer le bouc émissaire, mais en fait, il faut voir la chose de façon plus large. Et généralement, effectivement, le rond-point nourrit un certain nombre de légendes urbaines. À l'époque, je crois que Montaldo avait parlé des gangs de rond-points. Mmh. Un jour, au Salon du Livre, on m'a interpellé en disant « Mais vous travaillez pour les fabricants des pneus ?» Parce qu'on sait bien que les giratoires sont promus par les fabricants des pneus parce que ça use beaucoup plus un sens qu'un autre, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de voir toutes les légendes que nourrissent comme ça ces ronds-points incongrus.
Où mènent les ronds-points? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. On attend toujours vos commentaires, vos réactions sur le site ou sur l'appli de France Inter. Il est midi 49 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
J'étais osée ces fleurs de printemps. Endeuillées d'espèces au vent. Jardinière pressée, les yeux noyés, comme je les hais. Ces murs épais sous mes pas.
Où mènent les ronds-points? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Et vous aurez reconnu la voix de Jane Birkin, ces murs épais, c'est le titre de la chanson. Toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
avec trois invités, donc pour parler rond-point, Eric Alonso qui est professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires, Michel Dalloni qui est journaliste, tout comme Xavier Dejarcy, et puis ces messages qui nous arrivent sur l'appli de France Inter. Hélène nous dit « Je suis déprimée de voir certains paysages du quotidien minés par des ronds-points, des ralentisseurs, des panneaux, encore plus de panneaux, des stops partout, rien ne me fait rêver là-dedans, aucune poésie ne réussit à se dessiner dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est vraiment criminel de transformer notre vie en code de la route aseptisé. » Pour vous, Xavier Dejarcy, qui êtes l'auteur d'une enquête sur la France moche, un témoignage qui doit, j'imagine, vous résonner.
Oui, moi je partage entièrement ce point de vue, et on peut rajouter aussi les panneaux d'affichage qui sont mis à tort et à travers dans les entrées de ville. D'ailleurs, c'est une spécialité française. Il y a des pays qui ne pratiquent pas comme ça. Vous allez aux Pays-Bas, vous avez très peu de panneaux d'affichage, en Norvège, enfin dans plein de pays. Donc on peut faire autrement.
Comment ?
Ah bah, peut-être en légiférant, en réglementant, comme font les autres pays en fait. Il n'y a pas de mystère. Donc peut-être avec un peu plus de courage politique, je ne sais pas, mais c'est tout à fait faisable. Et les commerçants, je ne sais pas, les commerçants suisses, par exemple, ne vivent pas moins bien que les commerçants français.
Et il n'y a pas de panneau en Suisse,
voilà, c'est ça
que vous voulez dire. Panneau d'affichage en tout cas. Rémi nous dit, toujours sur l'appli de France Inter, les ronds-points sont peut-être une sécurité pour la circulation automobile, mais pour les mobilités douces, dont les cyclistes, les ronds-points sont dangereux et dans leur immense majorité maltraités dans les aménagements dédiés aux mobilités douces. Leur prolifération au sein des villes est un frein au développement de l'usage du vélo. Et c'est une question, Michel Dalloni, que vous abordez également dans vos articles que vous avez écrits pour Le Monde.
La sécurité, effectivement, le rond-point n'est pas le meilleur ami du cycliste. Il court même le danger d'être transformé en balle de flipper dans ce dispositif dévolu à l'automobile ou au véhicule à traction automobile. Et on a quand même des dispositifs alternatifs. Paris en teste un certain nombre, inspiré des Pays-Bas assez souvent, avec des contre-allées, des systèmes parallèles, des voies protégées, ou bien simplement revenir en arrière et réinstaller un bon vieux carrefour à la place d'un rond-point, pour permettre une organisation plus sûre pour les deux roues et les autres systèmes de déplacement personnel.
Eric Alonso, il y a des études qui sont menées sur comment utiliser aussi pour les vélos le rond-point ?
Oui, et les études et les statistiques montrent que même si c'est inconfortable pour le vélo, c'est pas forcément beaucoup plus dangereux pour la bonne et simple raison que les automobiles roulent moins vite. Et que, voilà, une fois de plus, c'est souvent ça qui est la clé de la sécurité. Donc, en gros, lorsqu'on est en ville et que les voitures roulent, prennent un rond-point à 20 km à l'heure, on se rapproche de la vitesse du vélo et là, les vélos peuvent se mélanger. Après, quand on a des dispositifs plus grands, il vaut mieux, effectivement, comme l'explique Michel Dalloni, faire des contre-allées, des voies réservées, ce qui rallonge le parcours du cycliste et qui n'est pas prioritaire assez souvent sur chaque fois qu'il traverse les branches routières du rond-point.
Mais dans la mesure où on a vu, notamment avec la pandémie, l'utilisation du vélo se développer énormément, est-ce que ça signifie pas que les ronds-points, et surtout peut-être les ronds-points en ville, sont aujourd'hui menacés, si je peux dire le mot menacés?
Oui, ben, clairement, je pense qu'un certain nombre d'entre eux devront être transformés. Il y a certaines fois des ronds-points qui disparaissent. Dans mon livre, il y a plusieurs ronds-points qui n'existent plus, à Nantes en particulier, et en particulier pour le passage du tramway. Il arrive assez souvent que l'occasion d'un passage de tramway fait qu'on supprime les giratoires ou on les perce en son milieu. Alors, du coup, ils ont un fonctionnement hybride. Ils marchent à feu quand le tramway passe et restent giratoires le reste du temps.
Michel Dalloni, vous avez rencontré un homme qui exerce un métier. Alors, j'ignorais que ce métier existait. C'est décorateur de ronds-points.
Voilà, ouais. C'est Jean-Luc Play qui est installé à La Rochelle, qui est un monsieur formidable, qui a une vie absolument extraordinaire et qui, à la faveur de ce parcours professionnel, qui l'a amené à travailler dans l'industrie automobile où il était prototypiste, s'est pris de passion pour ces objets en trois dimensions, d'abord pour la publicité et ensuite pour les collectivités où il a proposé ses services pour orner les ronds-points. D'ailleurs, on l'appelle dans le milieu, de manière assez taquine, le Rodin des ronds-points.
Alors, on lui doit beaucoup, hein, l'hommage au cycle à Saint-Quentin dans l'Aisne, Charrette et tonneau à Aigre-Ville-Jésus en Charente, L'enfant et l'huître à Marennes, des titres qui font rêver. Celui-là que j'adore, La cagouille charentaise à Lorignac. Ouais. Mais c'est un métier en voie de développement ou plutôt en raréfaction?
Alors, j'ai pas fait d'études statistiques sur le nombre de vocations que les ronds-points ont fait naître en matière sculpturale, mais on va dire que le rond-point n'est plus c'est un aménagement paysager, c'est un objet, un équipement de voirie dédié à la sécurité, mais c'est aussi devenu une balise. Bon, on peut le regretter, hein, de l'urbanisation, de l'urbanisme, et il participe à cette sous cet aspect-là à la personnalisation, la singularité de la personnalité d'une commune. Donc chaque commune transforme son rond-point en monument d'une certaine manière pour laisser un souvenir, aussi fugace soit-il, à l'automobiliste qui passe par là. Voilà, ça peut devenir une attraction.
Ils sont construits entre 500 et 800 par an, on l'a dit, hein, à peu près très rapidement, parce que nous arrivons vraiment à la fin de la mission. Mais Éric Alonso, le rond-point, il a encore de beaux jours devant lui?
Oui, alors j'imagine qu'on en a fait, que l'essentiel a été fait. Mais peut-être que maintenant, il faudra les transformer.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir été en direct avec nous. Le débat de midi, c'est fini pour cet été. Dès lundi, vous retrouverez à cette même heure le trio gagnant Nagui, Philippe Bertrand et Nicolas Stoufflet. C'est déjà l'heure de la rentrée.